Alors, quels sont les grands de ce monde ? J'aurais envie de dire spontanément que ce sont ceux qui se font remarquer, et pas toujours en bien. Certains chefs d'État malmènent leur peuple, ils mènent mal leur peuple. On associe souvent la grandeur au pouvoir et le pouvoir à la grandeur. Mais Jésus, lui, va les dissocier. Nous avons tous du pouvoir, chacun à sa mesure. Nous avons du pouvoir sur les choix que nous faisons, sur notre manière d'être en relation. Nous avons du pouvoir sur nos paroles, sur nos actes. Mais la soif d'en avoir toujours plus fait partie des tentations humaines. La soif de parvenir à la gloire grâce à notre pouvoir, quitte à écraser les autres, peut être une tentation. Ceux qui ont du pouvoir ne s'en servent pas toujours dans le respect de la vie. Ce pouvoir sert à nourrir leur ego, leur envie de paraître grand et fort. Ils ne savent pas exister autrement. Alors Jésus prend l'image des grands de ce monde. Et il a une expression intéressante, il dit « ceux qu'on regarde comme chefs des nations », comme si ce n'étaient pas eux les véritables chefs. Le vrai chef respecte la vie donnée par Dieu et facilite la vie en société les uns avec les autres. Et nous constatons, grâce à l'Évangile, que cette soif de pouvoir n'échappe pas, n'épargne personne, même pas les disciples. Qui ont côtoyé pourtant Jésus pendant des mois, des années. Et même au sein de l'Église naissante, nous entendons Paul qui reprend ses troupes. Je rappelle que la lettre de Paul aux Romains est écrite avant l'Évangile de Marc. Et il alerte sur ceux qui suscitent division et scandale. Cela me fait penser à l'expression « diviser pour mieux régner ». Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quelle audace, quand même, de la part des deux disciples. Et encore, Marc, c'est les deux disciples qui posent la question, mais dans l'évangile de Matthieu, c'est leur mère qui pose la question à Jésus. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, ils diraient « c'est trop la honte ». Jésus vient pourtant d'annoncer, juste avant notre passage, qu'il sera livré au grand prêtre, condamné, livré aux païens, qu'on se moquera de lui, qu'on lui crachera dessus, on le fouettera, ensuite on le tuera, et 3 jours après, il ressuscitera. Les deux frères ont-ils entendu ça ? Qu'est-ce qu'ils en ont compris ? Est-ce que la gloire à laquelle ils aspirent saute par-dessus toutes ces souffrances ? Ou bien peut-être sont-ils restés fascinés par l'expérience de la transfiguration qui a eu lieu un petit peu avant et dont ils ont été témoins ? En tout cas, ils demandent d'être aux deux places d'honneur. Et Jésus a une façon, je trouve, très douce de leur répondre. Il ne les attrape pas. Souvent, il y a des moments où il les attrape. Vous ne comprenez vraiment rien. Là, il ne les attrape pas. Il essaye de leur faire comprendre les conséquences de leur demande. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il continue en disant « Pouvez-vous boire la coupe ?» Alors, la traduction qu'on a entendue rajoute la coupe de douleur et baptiser le baptême de souffrance. En effet, ce sont des métaphores de la souffrance, de la douleur que Jésus doit traverser. Nous sommes évidemment dans le drame de la passion de Jésus, l'humiliation, la croix, jusqu'à la mort. Alors pour nous, en tout cas pour moi, la question de Jésus, ce serait plutôt une question rhétorique. Et j'aurais envie de répondre, ben non Seigneur, on ne peut pas traverser la souffrance que tu vas traverser. Et à notre grande surprise, les frères répondent oui à cette question. Ils disent oui, nous pouvons souffrir comme toi. Pourtant, rappelons-nous que tous les disciples ont fui au moment de l'arrestation de Jésus. Alors, à ce moment du dialogue, eh bien, nous découvrons que le temps du récit est un temps différent du temps historique. Ce dialogue initie un autre temps, le temps du martyr, qui aura lieu bien après la venue de Jésus. Un temps que Marc évoque, Jacques, Jean et bien d'autres apôtres et chrétiens seront persécutés pour leur foi. Ils mourront de mort violente comme Jésus. Ce temps de la souffrance et de la mort leur est aussi destiné. Mais leur demande d'être associés à la gloire de Jésus n'est pas du tout en cohérence avec l'enseignement qu'ils ont reçu. Et les autres disciples, ils s'indignent. On se serait sans doute indignés aussi. Est-ce de la jalousie ou bien est-ce une manière de leur rappeler qu'ils ne sont pas du tout en phase, en cohérence avec l'enseignement de Jésus ? Jésus leur fait comprendre qu'ils sont sur une mauvaise pente. Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations tiennent les nations sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Les grands tiennent les nations sous leur domination. Évidemment, cette constatation de Jésus est encore bien vraie aujourd'hui. Et ensuite, il continue en disant « Il n'en est pas ainsi parmi vous ». Je ne sais pas si cette phrase vous... Moi, cette phrase, elle m'a interpellée parce que c'est une phrase affirmative au présent. J'aurais plutôt attendu « Il ne devrait pas en être ainsi parmi vous ». Mais comment éviter qu'avec les 12 disciples, ces 12 hommes différents choisis par Jésus, dès le début de son compagnonnage, certains veulent être à la première place. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Alors, en 2000 ans d'histoire de l'Église chrétienne, de dérives humaines et d'infidélité à Dieu et au Christ, nous constatons à notre tour que l'Église n'a pas eu en son sein que des serviteurs. Jésus montre que les grands de ce monde, c'est normal qu'ils aillent à la dérive. Ils n'ont pas l'enseignement de Jésus, ils ne suivent pas l'enseignement de Jésus, mais au cœur de l'Église. Jésus devrait être le garde-fou. Il devrait être le garde-fou de nos désirs de puissance, car le Fils de l'humain est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous devrions avoir un garde-fou, nous aurions dû avoir un garde-fou. Le garde-fou, c'est ce qui empêche de tomber. C'est aussi être attentif à qui l'on écoute et qui l'on suit. Mais tous dans l'Église ne mettent pas en pratique les paroles de Jésus-Christ, qui nous dit « Vous voulez la gloire ? Mettez-vous au service. » Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Qu'est-ce qui est attendu ? Que veut dire servir, être serviteur ? Et même, ce mot, on peut le traduire par esclave. Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est une différence avec l'Ancien Testament que nous avons entendu dans Deutéronome. Nous avons entendu que servir, c'est servir Dieu, et non pas des dieux étrangers. C'est le Dieu unique que nous avons à servir. Et l'évolution que Jésus vient apporter, c'est que servir Dieu, c'est servir les autres. La relation à l'autre devient aussi importante que la relation à Dieu. En effet, Jésus a servi les humains en les aimant jusqu'à donner sa vie. Cela revient à dire que la manière de servir, c'est de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Dans la première épître de Jean, l'auteur déclare « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » Ensuite, servir, c'est aussi développer les talents que Dieu nous a donnés. Et évidemment, ces talents, c'est d'en faire profiter les autres. Parce que nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Nous avons la vie, nous avons reçu la vie, et puis nous avons reçu d'autres choses, tous différents. Et en fait, ces talents, c'est souvent par les autres que nous les découvrons. Et la vie nous permet de les développer plus ou moins. Quand j'étais jeune, je lisais parfois des textes au temple où j'ai grandi, et certaines personnes sont venues vers moi et m'ont dit que j'avais une voix claire et qu'elles entendaient bien. Si elle ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su, parce que je ne m'entends pas moi-même. j'avais du plaisir à lire. Et souvent, quand on développe son talent, eh bien, cela nous rend heureux. On sent que c'est juste ainsi. Mais après, eh bien, il m'est appartenu d'entretenir et de développer ce talent, notamment la voix qui est devenue un de mes outils fondamentaux pour mon ministère de pasteur. Alors, une troisième remarque. Dans la réponse de Jésus, les disciples demandent la gloire pour l'au-delà. Mais comme à son habitude, eh bien, Jésus répond, « C'est maintenant, ici et maintenant, que vous êtes appelés à servir. C'est maintenant que vous devenez les serviteurs les uns des autres. L'au-delà ne doit pas être votre préoccupation, cela n'appartient qu'à Dieu. » Même Jésus dit qu'il ne sait pas. On ne peut pas toujours confondre Jésus et Dieu. Parce que Jésus se démarque de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, il ne nous appartient pas de décider qui est grand dans le royaume. Et l'actualité nous a malheureusement montré que quand on érige des personnes un peu, sur un piédestal, eh bien, on tombe de haut quand on découvre des côtés moins reluisants de leur personnage. Mais c'est vrai qu'il y a des fruits de certaines personnes qui nous impressionnent et qui sont porteurs de paix. J'ai déjà parlé ici d'un homme que j'ai connu et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Émile Choufani, il est mort au début de cette année 2024. C'était un homme au service de la paix. Il était arabe, israélien, prêtre de l'Église catholique. Et il avait œuvré pour la réconciliation de multiples manières, en faisant des voyages à Auschwitz avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées, en apprenant à ses élèves musulmans et chrétiens à regarder ensemble les étoiles, parce qu'il était directeur de l'école, et puis à faire des échanges de jeunes dans des familles juives, chrétiennes et musulmanes. Et nous avons besoin de ce genre d'homme, nous avons besoin que ce genre d'homme existe, qu'on sache que ça existe. Il y a des artisans de paix, souvent ils sont anonymes, et c'est pour ça que c'est bien de lire plein de journaux différents pour les connaître, ces histoires de vie. Ça nous permet de ne pas désespérer de ce qu'on entend. Alors oui, nous aussi nous avons des talents. À nous d'œuvrer avec courage et persévérance. Là où Dieu nous a placés, osons, entretenons nos talents, développons-les. Et nous sentirons peut-être à la justesse de certains moments de notre vie que voilà, le service nous rend heureux et rend heureux d'autres personnes, quand notre service peut les aider. Quand la présence du Christ nous permet de vivre la communion entre nous et nous permet de dépasser les rapports de force. Oui, se mettre au service de l'autre, c'est se mettre au service de Dieu, et vice-versa. Mais ce n'est qu'en lui que nous pouvons devenir grands. À Dieu soit la gloire. Amen.